RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG vous saluent. Bien le bonjour et bienvenue sur RMC, la radio RMC Story, la télé, le canal 23 de la TNT pour discuter et débattre avec les grandes gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Dans les GG aujourd'hui, l'avocat Charles Consigny, bonjour maître.
Bonjour à tous.
À tes côtés, le docteur Jérôme Marty, bonjour doc.
Bonjour à tous, très beau match et on a une Joëlle qui porte le deuil de l'Irlande aujourd'hui.
Ah. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le deuil de l'Irlande. Deuil de, des pommes Granny Smith.
Le réveil des années 80.
Ou des Stabilo. Voilà.
Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent.
Joël
ce qui
affiche
se passe.
Un verre pétant, clinquant.
Mais je réveille les téléspectateurs
flashy,
qui sont endormis.
Mais ça met de la couleur,
heures.
Tu as raison. Ça met de la couleur dans la vie.
Alors que nous, exactement. On est tous en sombre hein, quand même.
C'est vraiment des bleu marine, en noir.
Vous êtes vraiment triste. Hein.
Oui, là, on ne peut pas gratter.
Vous avez une vie triste.
Les amis, Joël Dagosséry, la coach de vie, l'avocat, le médecin généraliste, voilà nos trois GG qui seront rejoints tout à l'heure pour un face au GG par le député Les Républicains, Philippe Juvin. Il est médecin aussi. Vous savez, il fait partie des Républicains, ce parti qui est peut-être mort clinique aujourd'hui ou en fin de vie. On l'évoquera avec Philippe Juvin tout à l'heure à 11h. L'ultra-violence chez les jeunes, est-ce que c'est la faute des jeux vidéo? Ça, on en parlera à 10h. Mais en attendant, on va se pencher sur le cas Jack Lang. Jack Lang qui est sous pression pour quitter la présidence de l'Institut du Monde Arabe. Vous savez que son nom est cité plus de 600 fois dans le dossier Epstein. Sa fille, Caroline Lang aussi, était en affaire avec Jeffrey Epstein. D'ailleurs, elle s'en est expliquée hier sur BFM TV avec Marc Fauvel. Question était posée, quels étaient ses rapports avec Jeffrey Epstein et que doit faire son père?
Mais je ne pouvais pas savoir, et mon père non plus. Quand on a connu Monsieur Epstein, on savait qu'il fréquentait la Terre entière. Il était ami de Monsieur Trump, de Monsieur Bill Clinton. Pourquoi on ne l'aurait pas fréquenté? Comment on pouvait imaginer des horreurs pareilles? Mais pourquoi il devrait démissionner?
Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez démissionné.
Mais moi, je suis dans une situation différente. J'ai démarré un nouveau job il y a 3 semaines. Mon père, ça fait des années qu'il est dans sa fonction.
Vous entendez Renaud Muselier, son prédécesseur à l'Institut du Monde Arabe, qui dit qu'il risque d'abîmer l'image de l'Institut du Monde Arabe.
Renaud Muselier, il a abîmé l'Institut du Monde Arabe en n'ayant rien fait pour l'Institut du Monde Arabe. Non.
Voilà la défense de Caroline Lang, la fille de Jack Lang.
C'est vrai que les appels à la démission du président de l'Institut du Monde Arabe se multiplient, y compris à gauche, dans les rangs socialistes. On a entendu Olivier Faure ou Ségolène Royal. Rappelons que Jack Lang a été nommé en 2013 par François Hollande, en 2020 et en 2023 par Emmanuel Macron. Il est en train de faire son 4e mandat qui s'achève à la fin de l'année, en décembre 2026. L'Institut du Monde Arabe, ça a été créé en 1980 par VGE, par Valéry Giscard d'Estaing. C'est payé 10 000 euros. C'est financé par le Quai d'Orsay à hauteur de 12 millions d'euros chaque année. Le reste, c'est financé par les pays arabes qui prennent 10% du budget. Alors, il est convoqué par le Quai d'Orsay. On le pousse à partir pour sauver l'institution. Mais au-delà du problème de l'Institut du Monde Arabe, est-ce que les explications de Jack Lang sont convaincantes? Je vois une différence entre Caroline Lang et Jack Lang. C'est-à-dire Caroline Lang dit que elle a découvert effectivement que son ami Epstein avait commis des agressions sexuelles sur des mineurs. Elle dit « J'ai été horrifiée, je lui ai dit à ce moment-là, c'est absolument dégueulasse ce que tu as fait, c'est immonde. » Et puis ensuite, je lui ai pardonné pour lui accorder une seconde chance. Jack Lang, lui, dit qu'il ne savait pas. Donc il y a deux lignes de défense différentes. Je rappellerai que ni l'un ni l'autre, hein, ni Jack ni Caroline Lang, ne sont poursuivis pour quoi que ce soit. Ils ne sont pas impliqués dans ces affaires pédocriminelles.
Alors, est-ce qu'il doit démissionner l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang, 32-16 pour dire Roger Charles?
Ça paraît difficilement tenable. Après, il a l'air très confiant sur ce qui est susceptible d'être mis à jour dans les Epstein Files. Sinon, je ne suis pas sûr qu'il se pavanerait comme ça sur les plateaux de télévision. Mais en même temps, ce qui a déjà été sorti, et notamment ce fameux mail qui s'appelle « Le Petit Prince », où Epstein interroge Lang sur la question de savoir si il faut éduquer l'enfant d'une manière ou d'une autre à la sexualité. Je me souviens plus des termes exacts du mail, mais il est public, chacun peut le retrouver. est quand même un mail suffisamment troublant. Ajoutons à ça, même si en tant qu'avocat je suis rétif à ce genre de choses, mais une rumeur qui est quand même persistante et ancienne, je veux dire, c'est quand même assez stupéfiant, pour dire les choses, que le nom de Jack Lang se retrouve entre guillemets comme par hasard, même si je veux pas prêter le flanc non plus, donc, mais voilà, il y a un nom français qui sort particulièrement, c'est celui de Jack Lang. C'est quand même un peu particulier.
Avec la photo au Louvre en 2019 où Jeffrey Epstein avait déjà été condamné pour des affaires pédocriminelles.
Et puis.
Donc là, pour l'instant, on lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir fréquenté un type qui avait déjà été condamné.
Non, mais plus ce mail qui est bizarre. Cette histoire de Petit Prince, je suis désolé. Ce mail, il est bizarre. Et la réponse de Lang, c'est simplement de dire qu'il ne s'en souvient pas, qu'il n'en a aucun souvenir, qu'il ne sait pas ce que c'est. Ce qui paraît là aussi assez curieux dans la mesure où il semblait échanger sur quelque chose de relativement précis.
Il y a un autre mail un peu curieux. C'est parce que Jack Lang a sollicité de l'argent à Jeffrey Epstein pour le financement d'un documentaire à sa gloire, réalisé par Serge Moati et
caviar.
Financé par les amis de Jack Lang, une
on
association.
Reste entre gauche caviar.
Et visiblement, Epstein a donné cet argent. Il le dit à son chargé d'affaires. Le chargé d'affaires est un peu surpris. Il dit, ah bon, pourquoi tu donnes de l'argent? Il dit,
pour qu'il reste dans l'équipe.
Et il dit, ah ben tu sais, c'est français. Et puis, il fait partie de l'équipe.
Ouais.
Et alors, bon, c'est quoi cette
non,
équipe?
Non, mais tout ça.
C'est vrai que c'est troublant et ça demande, du coup, ça serait bien de demander à Jack Lang, ça veut dire quoi cette équipe?
Oui, mais si sa réponse c'est juste de dire qu'il s'en souvient pas, moi je trouve que c'est un peu court. Et surtout si on met ça en balance avec le fait que Caroline Lang, comme tu viens de le rappeler, elle dit qu'à un moment donné, elle a su que Jeffrey Epstein était un criminel sexuel et qu'elle lui en a beaucoup voulu et qu'ensuite elle lui a pardonné, etc. Donc ça, moi ça paraît quand même curieux dans la mesure où Caroline Lang est censée être un peu moins proche de Epstein que Jack Lang lui-même.
Bah, peut-être pas, parce qu'elle est sur son testament.
Il y a un héritage quand même.
Oui, 5 millions.
Elle l'a
oui,
d'ailleurs, ça se met.
En tout cas, comment le saurait-elle? Ouais. Comment n'en aurait-elle jamais parlé? On parle de ses amis avec... Je veux dire, si on est amis de la même personne avec ses parents, ça peut arriver qu'on parle de cette personne.
On a du mal à croire que Jack Lang ne le savait pas.
Quand cette personne est un criminel sexuel... Ça fait quand même partie des choses dont on parle. Au-delà du fait de dire, ah, t'as vu, il est très en forme, il est sympa, etc. Bon, c'est quand même pas un petit antécédent. Donc, je trouve que tout ça fait beaucoup. Mais moi, si Lang veut s'accrocher à son truc, etc., mais c'est au ministre de prendre des dispositions.
Monsieur Barrot.
On verra si Monsieur Barrot a de la poigne. Il n'y a pas que TikTok dans la vie. Il y a aussi chefer son ministère.
Joël.
Non, mais, la culture de la responsabilité en France, alors vraiment, c'est moins que zéro. C'est vraiment moins que zéro. Quand j'entends qu'on essaye de faire démissionner Jack Lang, mais c'est viré. On n'a pas essayé de le faire démissionner, il doit être viré.
Il est nommé, donc s'il est nommé, on peut le dénommer.
Exactement. Je ne comprends pas pourquoi c'est à la volonté et au bon vouloir de Monsieur Lang de rester.
Donc Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités.
Il doit prendre ses responsabilités, il doit être viré. Moi, je fais le parallèle. J'ai regardé un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, par exemple. Je peux te dire que c'est en train d'abattre à tout va. Mandelson, là, l'ambassadeur, viré du parti.
Ça va
très vite. Parce que en France, j'ai l'impression, je suis vraiment choquée du traitement médiatique de cette affaire. Honnêtement, je vous le dis, j'ai l'impression qu'en France, on traite des pages mondaines d'Angala.
C'est l'endogamie.
C'est vraiment.
On se protège.
C'est vraiment du papier mondain. Ah bah oui, Jack Lang, machin, il était là avec. Mais attends, on parle de pédocriminalité. Il n'y a pas que ça. On parle de pouvoir politique, d'influence politique, d'ingérence politique. On parle de racisme, d'eugénisme. Quand tu vois les mails
Donc tu dis, Jack Lang, il doit aujourd'hui au Quai d'Orsay.
D'Israël,
lui dire
on parle d'eugénisme. Enfin, c'est complètement fou que Jack Lang soit encore aujourd'hui à la tête de l'Institut du Monde Arabe. C'est complètement fou. Je suis désolée. En France, il y a un moment, il faut se réveiller et prendre ses responsabilités. Du casse du Louvre jusqu'à ça, en fait, en France, tout peut passer. Tu peux rester à la tête de tout, peu importe
toutes les institutions.
Mais de toutes les institutions, peu importe ce que tu fais. Enfin, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Je suis vraiment dégoûtée de ça. Donc moi, j'attends du président de la République qu'il vire Monsieur Lang et que ce ne soit pas Monsieur Lang qui décide s'il reste ou non jusqu'au mois de décembre.
85 ans.
Oui, en plus,
c'est
franchement.
Mais non, mais c'est exactement. Non, mais c'est tellement français, quoi.
Ce serait pas c'est non plus lui casser sa carrière et que sais-je, hein.
Puis même s'il avait
25 ans à la tête du surprotégé.
Déjà, pourquoi Emmanuel Macron l'a reconduit?
Sur-subventionné. Enfin, je veux dire, bon, il y a un moment, tu payes, quoi. Tu payes pour ton comportement. À un moment, tu payes. À un moment, l'addition arrive. On ne mesure pas ce que cette affaire va faire comme mal au niveau de la politique de différents pays occidentaux. C'est 8 millions, je crois, c'est 3 millions de documents.
C'est 3 qui ont été publiés, 3 millions de documents. Il y en a 5 au total.
J'ai écouté Laurence Haïm hier soir, quoi, qui disait qu'elle avait étudié 8000 mails sur 3 millions de documents. On n'a pas levé le quart du dixième, du centième de ce truc-là, quoi.
Ouais, alors après,
c'est
fourre-tout aussi. Il faut être prudent parce que il faut faire la distinction.
Non, mais j'ai pas envie d'être prudent. Excuse-moi, mais c'est les grands gueules ici. J'ai aucune envie d'être prudent.
Oui, mais tu vas être diffamatoire.
Non, c'est pas diffamatoire.
Je termine. Entre un nom qui est cité, parce que Epstein, il voyait la terre entière, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le rationnel. Entre un nom qui était cité et quelqu'un qui est impliqué dans une affaire criminelle, c'est pas la même chose.
Olivier, je m'en contre fou.
Bah, si.
Je m'en contre.
Non, il faut pas
s'en contre. J'ai des gens qui là s'expriment en me disant ah non mais je le connaissais, il savait que j'ai levé seul mes enfants, il a sans doute voulu m'aider, il m'a donné 5 millions d'euros et je l'ai découvert quand Mediapart me le dit. Et ces gens nous prennent pour des cons. Je veux dire à un moment. Mais moi je pense aux gens qui ont des difficultés. On leur file 5 millions d'euros à eux pour les aider, quoi.
Oui, mais enfin.
Ils se rendent compte ce que c'est 5 millions. Non, mais. Ils se rendent compte ce que c'est que 5 millions d'euros.
On n'est pas obligé d'être démagogie.
C'est pas la démagogie où tu passes à côté de quelque chose d'énorme. Je suis désolé. Mais les gens qui attendent ça. Ils sont profondément révoltés. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'imaginent qu'ils sont tellement protégés qu'après tout, c'est normal de recevoir 5 millions d'euros d'un pédocriminel et de dire en plus, ah non, j'étais pas au courant. Le mec était déjà condamné.
Ils ont pas reçu un centime.
Cette affaire est profondément dégueulasse. Il peut pas y avoir plus dégueulasse. Il peut pas y avoir plus dégueulasse. Ou alors je vois pas ce qui est plus dégueulasse.
Oh, si, il y a plus dégueulasse.
Non, il y a pas plus dégueulasse que ça.
Laurent Saïm citait une conversation qui est dans les Epstein Files. Qui est dans les Epstein Files. Où il dit à un politique français, j'ai des jeunes filles dans un aquarium. Oui, elles sont comme les crevettes. T'enlèves la tête,
ça,
tu
c'est dégueulasse.
Le
mais là tu mélanges tout. Caroline Lang, c'est pas ça.
On ne peut pas me faire croire, Olivier, que les gens qui fréquentaient Epstein n'étaient pas au courant de ces turpitudes.
Mais Caroline,
excuse-moi,
Marty, tu mélanges tout et c'est dégueulasse ce que tu fais parce que tu jettes des noms en pâture. Caroline Lang, elle n'a jamais caché.
Attends, mais Olivier, je peux terminer les noms en pâture.
Je vais te dire. Là, tu fais croire que Caroline Lang participait à cette
turpitude. Mais non, je te dis pas ça. Je te dis qu'elle ne peut pas dire. Elle peut pas nous dire j'ignorais.
Non, mais elle n'a pas. Alors déjà, si tu écoutais ce qu'on te raconte, elle a dit hier soir, je sais pas si tu as écouté l'interview, elle a dit qu'elle le savait. Elle l'a su quand elle était condamnée.
Mais tu ne peux pas pardonner ce genre de choses, enfin, quand même.
Mais après, c'est son problème personnel.
Mais c'est incroyable.
Je sais pas, t'as peut-être des amis qui ont commis des choses horribles. Et parfois, tu peux donner ce
genre de choses. Olivier, toi, tu es vraiment comme
Epstein. Non, j'ai pas d'amis comme Epstein. Non, mais d'arrêter. Vous allez pas descendre ça.
On fait quand même.
T'es vraiment le représentant du traitement
des gens. J'aime bien les mecs, les moralistes à deux balles.
On parle de cette société qui fréquentait cet homme, qui aujourd'hui se planque un peu en disant non mais on savait pas, on nous avait pas dit, on savait pas, et puis on l'a pardonné parce qu'on voulait lui donner une seconde chance. Une seconde chance de quoi? Une seconde chance de quoi à un moment, quoi?
Alors, il y a Magali qui va intervenir.
Combien de personnes on est dans le jugement moral?
Non, je suis pas dans le jugement moral.
Je voudrais qu'on écoute Magali.
C'est dangereux.
Au 32-16, s'il vous plaît. Bonjour Magali.
Oui, bonjour Yagé, vous allez bien?
Oui, qu'est-ce que vous en pensez alors, Magali?
Ça a enflammé le débat. Écoutez, moi, je suis comme tout le monde, je suis écœurée, je suis dégoûtée, quoi, par le comportement de nos politiciens, quoi. Ils sont censés montrer l'exemplarité, ils sont censés représenter les valeurs de la République, et voilà, quoi. Et il faut pas faire du bruit, on a l'impression d'être dans le monde des bisounours, faut pas faire de bruit, une espèce d'omerta en France, quoi. Sur notre société, c'est dingue. Enfin, moi, j'ai des enfants, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? J'ai ma fille qui est en droit de vote, qui va voter la première fois cette année, qu'est-ce que je vais lui dire par rapport aux politiciens qui font des conneries comme ça? Qu'est-ce que je vais lui dire?
Mais qu'est-ce que vous appelez connerie là? Qu'est-ce que vous mettez dans ces insinuations?
Il faut qu'on ait le détail. Dites-moi. Là, on parle à l'aveugle.
Ce que l'on peut reprocher à Caroline Lang, c'est d'avoir ouvert une société offshore dans un paradis fiscal. peut-être, d'avoir touché de l'argent de Jeffrey Epstein, mais par rapport au réseau pédocriminel, il n'y a aucune charge. De ce que l'on sait là, à date,
c'est pas ce qu'on a dit.
Allez-y.
Ça éclabousse toute la... Enfin, on a l'impression que c'est... Enfin, ça éclabousse tout. Plein de politiciens, plein de gens connus. Personne... Il faut... En France, c'est ça. C'est personne ne doit dire rien. Personne ne dit rien. On parle de Bétarame, c'est la même chose. On ne doit rien dire.
C'est
quoi.
Pas vrai, puisqu'on
regardez,
en parle.
Regardez en Angleterre, le prince Andrew, il a été viré.
Oui, mais le prince Andrew... Oui, mais c'est là où... C'est pour ça que j'en veux à Jérôme Marty. Parce qu'on mélange tout. Le prince Andrew, il est avéré qu'il est parti... Il a participé aux soirées où il y avait des mineurs. Il s'est tapé des mineurs présentés par Epstein. C'est avéré. Donc le prince Andrew, il mérite, et d'ailleurs, peut-être qu'il devrait être en taule, il ne l'est pas encore. Mais je trouve qu'on mélange l'affaire Andrew avec l'affaire Jack Lang. À présent, peut-être que je me trompe, peut-être que Jack Lang est lui aussi impliqué dans ces affaires pédocriminelles et je serai le premier à le dénoncer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce qu'on peut reprocher à Jack Lang, c'est d'avoir fréquenté un homme qui avait été condamné et d'avoir eu des liens financiers avec cet homme via le financement d'un homme.
C'est pas
la même chose. Je suis désolé, Jérôme Marty, t'es trop intelligent pour pas faire de la hiérarchie.
Quand on a un personnage, au sommet de l'État, même s'il n'occupe plus de fonction gouvernementale. Mais en tout cas, qui a de l'influence dans la politique, on a un problème lorsqu'il trempe dans ce genre de dossier. Pas qu'un problème de pédocriminalité, on a même un problème de confidentialité sur ce qui se passe en France. Moi, je suis désolée, on peut pas pleurer sur la Russie, machin, qui nous espionne, etc. et accepter que des hommes politiques aussi influents que Jacques Lang trempent dans un dossier où il y a des Russes, des Américains, des Israéliens, des Africains, etc. Non, je suis désolée, on a un vrai problème. Et si personne ne comprend ça, moi, je sais pas comment on peut pas comprendre que ça va créer un vrai problème de confiance dans la population.
Magali, il faut que Jack Lang démissionne.
Oui. Il y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, enfin, je ne suis pas la seule à le penser. Les gens sont déjà dégoûtés des politiciens, ce n'est pas ça qui va faire adorer leurs images.
Évidemment. Magali, je vous remercie d'avoir été avec nous. Alors, Jacques Lang doit-il démissionner? C'est la question qu'on a posée dans les GG, dans les grandes gueules. Je pense qu'on va voir. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 100%? Non, on est à 95. Il y a un petit 4,8% qui estime que non. On va voir comment se développe cette affaire, parce que bon nombre de personnalités qui vont être auditionnées aussi aux États-Unis devant le Congrès, dans le Bill Clinton aussi qui va aller parler.
Mais dans cette affaire,
je crois qu'il promet la guerre à tous ceux qui veulent le mouiller dans l'affaire pédocriminelle.
Dans cette affaire, je rappelle qu'il n'y a qu'une seule personne en prison, c'est Maxwell. La fille Maxwell. C'est la seule. Et il y avait Epstein qui s'est, paraît-il, suicidé.
Et Jean-Luc Brunel aussi, qui était son agent agent de mannequin ici.
Lui aussi, paraît-il, s'est suicidé.
Et qui a été retrouvé mort en prison.
C'est dingue, hein, cette épidémie de suicide.
Dans un instant, avec les grandes gueules, avec les GG au 32-16, 38% des Français estiment acceptable le recours à la torture dans certains cas, pour obtenir des aveux notamment. Est-ce que ça vous choque? C'est au 32-16 qu'on va en parler avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec aujourd'hui Joël Dagosséry, avec Charles Consigny, avec le docteur Jérôme Marty et avec vous, comme Magali il y a un instant, au 32-16, vous prenez la parole tous les jours avec les grandes gueules. Là, on va s'intéresser à cette étude, à ce sondage sur les Français, pour un tiers d'entre eux qui disent la torture, pourquoi pas. Oui, c'est une étude IFOP pour l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une association. Et alors, on s'aperçoit que 38% des Français estiment acceptable un retour à la torture, notamment pour obtenir des aveux dans des cas exceptionnels.
Oui, c'est quand même près de 4 Français sur 10, et surtout, c'est un chiffre qui ne cesse de progresser depuis 2000, hein, puisque régulièrement, ils font cette étude. En 2000, c'était 25%. Maintenant, on est à 4 Français sur 10. Un résultat qui traduit, selon l'association qui a commandé ce sondage, une banalisation inquiétante de la torture, parce que les Français, en fait, ils sont prêts à torturer. Ils pensent que ça peut être efficace. pour entraver un acte terroriste. Un Français sur deux sondé considère que la torture est efficace pour entraver un acte terroriste. Une majorité, 57% des Français estiment de plus qu'elle permet d'obtenir des aveux. Et donc on pourrait être torturé pour obtenir des aveux. Et 46% des Français interrogés jugent que la torture facilite l'obtention d'aveux fiables. Donc en plus, c'est des voilà fiables. Bon, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous comprenez, ça fait partie aussi de cette montée de la violence aujourd'hui constatée dans la société.
Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que Joël a été torturé pour porter sa veste.
En tout cas, c'est une torture pour les yeux.
C'est torture.
J'espère que chacun avouera que je suis la plus belle sur ce plateau.
C'est vrai aussi.
Tu n'as pas besoin de torturer.
Seulement sous la torture.
C'est là tout charme. Non mais ça vous choque ou vous-même vous dites bon dans des circonstances exceptionnelles, terrorisme ou quoi que ce soit, s'il faut un petit coup de force, on peut le mettre.
Non mais d'abord. Il a été pratiqué par les
D'abord, quel référentiel on a? Est-ce que ce chiffre est en augmentation ou en baisse? Parce qu'il y a déjà eu le même type de sondage auparavant.
J'ai regardé, je crois que c'était 25% avant.
Et puis ensuite, sur quoi on se base?
Parce que 60% des Français disent si c'est pour empêcher une bombe d'exploser, on peut mettre des décharges électriques.
Quel est le savoir des 60% des Français? Je suppose pas plus que le mien. Je veux dire, les seuls à même, qui seraient à même de répondre, ça serait les services secrets, etc. Enfin, les gens qui sont malheureusement amené à de temps en temps faire ce genre de choses qui restent toujours off the wall, quoi. Et ça s'est toujours fait, y compris dans les démocraties, mais on le sait pas.
Mais je prends un exemple assez récent.
Aller dire officialiser le truc, enfin ça veut rien dire.
Non, mais après le 11 septembre, il y a d'ailleurs un très bon film qui le raconte, c'est Zero Dark Thirty. On voit bien que les Américains ont torturé pour tenter de trouver la piste de Osama Ben Laden. Voilà.
Et, oui, mais d'ailleurs,
ça a été accepté parce que il y avait eu cet attentat terroriste à New York, notamment, et donc je crois qu'à ce moment-là, les Américains approuvaient les méthodes.
Oui, mais c'est parti en sucette totale à l'époque à Guantanamo.
Ils ont trouvé Ben Laden.
Ou enfin, bon, bien longtemps après ces tortures, donc probablement pas grâce à ces tortures.
C'est pas grâce à ça qu'ils l'ont trouvé.
Et surtout, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné en fait du sadisme gratuit de la part de militaires qui s'amusaient à humilier les prisonniers, mais pas du tout dans un but de les interroger, dans le but de se faire plaisir à eux-mêmes, et ça débouche forcément sur ça. Donc moi je suis inquiet d'entendre qu'un tiers des Français ont envie qu'on se remette à torturer dans les salles d'interrogatoire.
J'ai un grand-père à qui on a crevé les yeux, à qui on a cassé la colonne vertébrale, à qui on a arraché les ongles, j'ai tout ça. Toute son agonie, ligne par ligne et minute par minute, par son voisin de cellule.
C'était la Deuxième Guerre mondiale.
Par la milice, ouais, il a été arrêté par Das Reich et puis il a été torturé par la Gestapo. On a donc tout le compte rendu. Il a pas parlé. Il est mort sans avoir livré son réseau de résistance. Donc tout ça pour dire que la torture n'amène souvent pas grand chose parce que les gens que tu tortures et qui sont au courant de choses, souvent ils ne parlent pas. Par contre, les lampistes, tu peux les faire parler, leur faire dire n'importe quoi, et effectivement, comme le dit Charles, ça peut dériver en espèce de plaisir sadique. Mais je pense pas qu'il y ait une quelconque efficacité. Par contre, oui, c'est de la barbarie. Évidemment que c'est de la barbarie.
Et Joël
Dagosséry. Soutenir la barbarie quand on est une société dite civilisée, c'est quand même compliqué, quoi, il me semble.
Joël Dagosséry.
Ah, je dis, la France, c'est un truc, c'est vraiment un pays de ouf. Donc, la fessée, non. Mais la torture, oui. Non mais franchement,
c'est peut-être les mêmes. Hein.
La fessée, c'est pas bien, c'est méchant. Non, pas.
C'est les autorités qui disent que la fessée c'est méchant, parce que les Français sont plutôt pour une petite fessée de temps en temps.
Mais la torture, c'est pas grave. Non, mais pour moi, c'est de la sauvagerie. Excuse-moi. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes personnes qui vont dire qu'il y a dans sauvagement, qui vont te dire ah oui, la torture, c'est sympa. En plus, j'ai regardé un peu, j'ai fouillé un peu.
Mais c'est la torture pour se sauver. C'est ce que dit cet enfant.
Pour savoir où est placée la bombe,
c'est dans l'intérêt de sauver des vies.
Sur la question des aveux, moi j'ai regardé un peu
Je prends un exemple. Il y a une bombe qui est placée dans l'établissement scolaire de ta fille. Oui. Le type qui a placé la bombe ne veut pas avouer. Qu'est-ce que tu fais? Il ne veut pas dire où elle est placée la bombe.
Mais déjà, si on sait qu'il y a une bombe, ça veut dire qu'on peut faire évacuer.
Le seul moyen, on n'est pas dans James Bond,
tu me fais un scénario qui n'existe pas.
Human bomb à Neuilly, ça existe.
On n'a pas fait la torture, on a envoyé Sarkozy. Peut-être que c'est aussi une torture.
On peut avoir quelque chose.
Non, mais s'il y a un code et que pour obtenir le code, le seul moyen, c'est de lui faire cracher le morceau.
Non, je ne souscris pas à ça, je suis sûre qu'on a des moyens.
Sur tes grands principes, tu dis non, je mets ma veste verte.
Mais parce que.
Là, le gars, il désamorce tout de suite. Là.
C'est vraiment... J'arrête. C'est vraiment bête. Mais non, mais...
Oh, bah, mais...
Non, mais c'est
j'ai regardé. Non, j'ai regardé.
La question est pas si simple.
Laisse-moi retrouver le fil de ma pensée. J'ai regardé sur les aveux, sur la question des aveux. Je me suis dit, ah, peut-être que machin. Il y avait une étude qui est sortie qui a dit qu'en fait, sous les aveux, sous la torture, les gens vont avouer tout et n'importe quoi. Et j'ai fait le parallèle avec les guilis, par exemple. Moi, quand on me faisait des guilis, tu vois,
ah,
quand
des chatouilles.
Oui, exactement. Et ben, je pouvais dire oui, je te jure, je vais faire la vaisselle, oui, je te jure. Et je la faisais pas. Donc franchement.
Oui, mais.
Non, mais on constate.
Les
si on peut.
Non, mais là,
il y a si on peut repartir.
Là, on l'a dérapé.
Joël, tu le mets en parallèle. Guantanamo et les guilis.
Et les guilis et la vaisselle. C'est marrant parce que moi, je viens plus souvent le lundi que le vendredi. Et souvent, c'est quasiment pas la même émission.
C'est pas la même tenue.
Le vendredi,
c'est plus détente.
On sent qu'on est en train de glisser sur le week-end. Plus personne n'est en costard. Joël arrive déguisé et fait des blagues.
Mais demandez aux gens qui ne supportent pas les guilis, demandez-leur, vous allez voir qu'ils vont vous dire tout et n'importe quoi.
Non, mais de toute façon, il y a un durcissement. Moi, ce qui me frappe, c'est le durcissement des Français.
Est-ce que ça veut dire
énorme sur toutes les questions pénales. C'est-à-dire que c'est une société qui réclame maintenant un système extrêmement brutal, sans doute pour certaines bonnes raisons, c'est-à-dire exaspéré par l'inefficacité des pouvoirs publics à endiguer la violence, la délinquance, la criminalité, mais quand même...
C'est une société qui a connu le terrorisme aussi, qui a peur quand même.
Dans un autre registre, j'entendais le procureur de Paris, Rémi Heitz, enfin le procureur près la Cour de cassation maintenant, parce qu'il est promu...
On l'a connu à Colombie, il était délégué à la sécurité routière.
Où s'arrêtera-t-il, Mr. Heitz? Je l'entendais chez Apolline de Malherbe hier, qui réclamait la fin de la prescription pour les crimes. Je suis désolé, pour moi, c'est une régression. C'est méconnaître, c'est ne pas avoir lu Les Misérables.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais les Français...
Mais ça, la société le demande.
Les Français, ont l'impression de pas être assez protégés, je pense. Et donc, effectivement...
Ils veulent du brutal
parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas protégés par les autorités, par l'État. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, des mômes de 14 ans sont capables de poignarder à quatre reprises leur prof en ayant dans l'idée de l'assassiner, puisque le môme en question à Sanary a avoué aux enquêteurs qu'il avait le projet de l'assassiner, que c'était bien renseigné, il savait la différence entre un assassinat et un meurtre, et qu'il voulait d'ailleurs le faire la semaine précédente, il avait reculé, il l'a fait. Ben, quand tu apprends ça par exemple, 14 ans c'est un gamin, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir peur de tes propres enfants, ben effectivement, tu peux basculer. Moi je suis sûr que si tu faisais un sondage sur la peine de mort, il y aurait sans doute une majorité de Français qui serait d'accord pour le retour de la peine de mort.
Pour arrêter de travailler à 58 ans et puis comme ça tout le budget va passer dans le financement des retraites et on n'aura plus de budget pour la justice et le ministère de l'Intérieur. Donc il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une justice efficace, des policiers partout, etc. et dire, ah bah oui, moi je vais partir à 60 ans et puis on va me payer ma retraite pendant 40 ans, etc. Donc il faut choisir la société qu'on veut, mais pas demander de la torture et partir en retraite à 60 ans.
Sophie veut en parler avec nous, elle est enseignante du côté du Loiret. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour les GG.
Est-ce que vous êtes dans le tiers qui dit c'est acceptable ou dans les deux tiers qui refusent alors, dites-moi.
Ah ben moi je refuse et je suis enseignante en histoire géo, enseignement moral et civique, je suis choquée parce que je sors de cours là, donc j'ai une heure de trou et des fois j'écoute les GG entre deux. Et donc votre collaborateur m'a appelé pour que j'intervienne un petit peu. Donc j'ai pas tout entendu de votre débat. Donc justement j'étais intervenue chez Apolline quand Michael Capati est venu. Déjà je suis très choquée de la façon dont mon collègue a été assassiné. La collègue de Sanary. Ça va la violence. Moi j'enseigne Robespierre, j'enseigne la laïcité en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour moi la torture. C'est j'ai entendu le témoignage de docteur Marty pour son grand père, je crois, c'est ça. Mais c'est faut pas. Je veux dire, quelle que soit la personne qui doit parler, il y a d'autres moyens que de torturer une personne. Je suis très choquée en fait.
Même pour obtenir des aveux dans un cas d'absolue nécessité, parce que c'est ce que disent les sondés d'ailleurs.
Vous voulez dire des terroristes, etc.
Oui.
Ce que vous vouliez dire.
Oui, c'est ça.
Mais, de toute façon, s'ils n'ont pas envie de parler, ils parleront pas. Hein. Un terroriste, il est prêt à se mettre une bombe sur lui pour mourir. Donc,
Sophie, vous dites, dans une société qui est violente, c'est pas la peine de rajouter de la violence à la violence. C'est ce que vous dites, Sophie. On va voir justement ce que vous ressentez. Comment vous envisagez justement cette tolérance à la torture pour certains, cette utilisation. 38% jugent la torture acceptable. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou pas? Inquiétant comme Sophie ou pas? On va voir ce que vous en dites justement. On n'a pas mis la
Moi, je pense qu'on ne torture pas assez la régie sur les sondages. Parfois, elle aurait besoin d'un petit coup de règle sur les doigts.
Un petit coup de gégène. Il est 10h25. Dans un instant, on s'en fout pas. Reste avec les grandes gueules et merci à Thaï d'avoir été avec nous.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vendredi prochain, nous serons le vendredi 13. Et d'ici le vendredi 13, attention, vendredi prochain, on vous fera gagner 30 000 euros. Et donc, pour les gagner vendredi prochain, il faut vous inscrire. Et pour vous inscrire, vous envoyez 13 par SMS au 732-16. Vous pouvez l'envoyer en chiffres, vous pouvez l'envoyer en lettres. 13 par SMS au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire et vous serez peut-être tiré au sort pour faire tourner la roue vendredi prochain et gagner jusqu'à 30 000 euros. À vous de jouer, à vous de gagner en envoyant 13 par SMS au 732-16. Ça fait trop de chiffres. Vous envoyez 13 par SMS au 732-16. Voilà. Ça y est, c'est compris. Ça y est, si j'ai compris, vous avez compris. Allez, 10h moins le quart, on accueille Anaïs.
Rien compris.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les Français travaillent en moyenne 365 heures de moins qu'au milieu des années 70. On s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Jérôme?
Non, on s'en fout pas.
Joël?
On s'en fout pas.
365 heures, c'est donc 15 jours de moins en un demi-siècle, chiffre de la DAR. Évidemment, entre-temps, la réduction du temps de travail et les congés payés sont passés par là, rappelle le Figaro, qui note aussi une forte disparité selon si on est salarié ou indépendant, évidemment. Charles, pourquoi tu t'en fous?
Je ne suis guère surpris. Ah bon? Je constate que le travail est une valeur qui se perd. Que la glande est en revanche une valeur qui gagne du terrain.
La flemme.
Que le télétravail succède à l'arrêt maladie qui précède la retraite. Que le week-end dure désormais du mercredi soir au mardi matin. Et donc, je pense que ce système n'est pas tenable et qu'on fait peser sur une minorité de Français le poids du système collectiviste qui permet à certains de fonctionner comme ça. Je suis pour une révolution culturelle.
D'accord. Joël?
Ça suit, les salaires suivent. Hein. Je veux dire, il ne faut pas s'étonner, on travaille de moins en moins. Bizarrement, on gagne de moins en moins, on s'appauvrit.
Exact.
Donc, je pense que si on faisait le contraire, peut-être, je dis que ça comme ça, hein, c'est une proposition à l'air, peut-être qu'on gagnerait plus. Donc, il faudrait revoir, je pense, le temps de travail, parce qu'en plus, tu l'as dit, moi, par exemple, mon temps de travail a augmenté depuis que je suis devenue indépendante. Donc, je suis passée de 35 heures à, je ne sais pas, des fois, c'est 42.
Les indépendants travaillent plus que les salariés, ça, c'est
oui,
évident.
Oui, voilà. Donc, je pense que, voilà, il faudrait penser à gagner un peu plus, travailler un peu plus.
Mais alors, pourquoi, je sais pas, je pose la question à Jérôme, pourquoi il est avéré que nos ancêtres travaillaient plus que nous, mais se plaignaient moins? Pourquoi aujourd'hui on travaille moins? Le travail est moins dur, hein, mais on se plaint plus, puisqu'on n'arrête pas de faire des débats sur le burn-out, le stress au travail, etc.
Certes, il y a eu les 35 heures, mais il y a aussi plus de lois sociales, il y a un code de travail qui est épais et comac. On a légiféré autour du travail.
Pourquoi les gens se plaignent plus aujourd'hui,
année après année,
qu'avant?
Non, mais on a tout fait pour que les gens travaillent moins, quoi. On a tout fait pour que les gens travaillent moins, hormis effectivement les artisans, les commerçants, les indépendants, etc., qui eux bossent 50, 60, 70, 80 heures par semaine. Je le dis tout le temps, il y a deux Frances.
Oui, mais d'accord, mais pourquoi ils se plaignent plus?
Parce qu'ils ont gagné les esprits. Mais parce qu'on est dans une société de fragiles.
Mais c'est vrai. Le gauchisme a gagné les esprits. Vous savez, il y a des modes intellectuels. C'est un peu le Muppet Show, Marty et moi, parce qu'on parle en même temps et on dit la même chose. On parle en même temps, on dit la même chose, mais avec des mots différents. C'est une espèce de canon.
Mais GG, en quelle année on est passé de 40 heures à 39 heures?
89, je sais pas.
82. Oui, enfin, c'est à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ouais. Ouais.
Allez, on enchaîne.
Bon, le candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, veut permettre aux Parisiens de privatiser un bout de leur rue en bas de chez eux pour leur permettre d'organiser des petites fêtes de quartier, des événements associatifs, sportifs ou même familiaux. On s'en fout ou pas, Joël ?
On s'en fout pas.
Charles.
On ne s'en fout pas.
Jérôme.
Non, on ne s'en fout pas, non.
Cela devra passer par un permis de piétonnisation qu'Emmanuel Grégoire donc veut mettre en place s'il est élu maire. Seulement si la rue s'y prête, hein, évidemment, Charles Consigny.
Écoutez, moi, ça me donne envie de me défenestrer pour dire les choses comme elles sont. Je suis au-delà de la consternation, je suis dans l'effarement. Et je,
c'est sympa, tu peux organiser une fête en bas de chez toi,
t'auras le droit de privatiser.
Bien sûr, comme si ça n'existait pas déjà partout. Je veux dire, à Paris, quand on essaye de circuler dans cette ville, on est constamment empêché, soit parce que carrément les rues maintenant sont fermées purement et simplement à la circulation, soit parce que on reçoit le club de basket de Tombouctou qui vient fêter sa qualification en demi-finale. Voilà. Et donc pour ça, on va privatiser les Champs-Élysées. C'est ça la mairie de Paris. Je veux dire, c'est donc moi ça me rend
privatise l'espace public.
Ça me déprime au dernier degré. Et je trouve que en fait, tout simplement, ces gens, Emmanuel Grégoire, Madame Hidalgo, etc., ne sont tout simplement pas au niveau pour les fonctions auxquelles ils aspirent. Mais Emmanuel Grégoire, il a même pas le niveau d'un délégué de classe avec une proposition comme ça.
Oui, mais là, c'est une mesure qui veut permettre la convivialité.
Oui, ouais.
C'est un peu la fête des voisins, c'est-à-dire que tu privatises ton bout de trottoir.
Il y avait un homme politique qui disait on devrait construire les villes à la campagne. C'est la même chose. Tu peux pas tout avoir quand tu es en ville. Tu peux pas avoir la tranquillité d'un petit village, le fonctionnement d'un petit village et le fonctionnement d'une grande ville. Tu peux pas tout mélanger. Et l'électoralisme, ça excuse pas tout. Là, on est dans l'électoralisme et le populisme le plus évident. Il y a des élections bientôt. On essaye de faire plaisir à une certaine clientèle. Et on dit n'importe quoi.
C'est moi, je vois bien.
Et on dit
n'importe quoi.
Non. Par contre, Charles, si tu dois te défenestrer, n'oublie pas de mettre la rue balise autour de l'endroit où tu vas tomber.
Je privatiserai ma rue.
Voilà,
pour que personne ne personne.
Mais j'ai justement l'anniversaire de ma fille qui arrive le mois prochain. Je pense à privatiser le pas de porte devant mon immeuble. Mais non, mais on est où? Enfin, je veux dire, l'espace est déjà privatisé par les travaux. Et à un moment, il faudrait déprivatiser, qu'on puisse
absolument
circuler. Et personne n'a demandé ça. Il n'a pas de programme, monsieur Grégoire.
Ah bah, si. Non, mais ça se résume pas à ça. Mais...
Non, mais je veux dire.
On espère.
Qui ça attire? Ça nous attire, oui. On a envie d'aller faire la queue pendant 3 heures à la mairie et puis remplir une paperasse et attendre 3 semaines avant d'avoir une certaine autorisation pour 3 mètres carrés devant de chez soi. On a envie de ça.
Ça vient du principe que les gens vivent dans des appartements petits, ils n'ont pas beaucoup de place et que tu privatises une partie de la rue pour faire une fête entre les voisins ou avec tes amis, etc.
Tous les trottoirs vont être privatisés parce que tout le monde aura envie de boire un coup et donc tu vas passer au milieu de la rue, tu vas te faire faucher par une voiture, un cycliste.
Je vous invite à venir à Toulouse devant les cafés ou devant le moindre bar tous les soirs, toutes les nuits. Il y a des grandes parties de trottoirs qui sont privatisées.
Ah oui, mais GG, un message sera bientôt envoyé à tous les Français de 29 ans, pas 30, pas 28, 29.
Ça me concerne.
Les sensibiliser à quoi ? À l'infertilité. C'est l'une des mesures du plan contre l'infertilité présenté hier par le gouvernement. Gouvernement qui veut informer davantage sur la santé sexuelle, la contraception, la conservation d'ovocytes et la PMA. L'infertilité qui touche 3,3 millions de Français quand même. Joël, tu t'en fous ou pas ?
Je m'en fous pas.
Charles ?
Je m'en fous un peu. Je m'exprimerai si tout n'est pas dit par le docteur Marty et le professeur Dagosseri.
Jérôme ?
Non, on s'en fout pas, non.
Joël ? C'est une bonne idée ou pas ?
Non.
Ah bon ?
Enfin, ça part d'une bonne intention. D'accord ? Une intention d'informer. Moi, je vois ça comme une sorte de bureaucratisation de mes entrailles. Voilà, j'ai l'impression que là, c'est une lettre de rappel. Puis après, on va nous mettre quoi ? Une mise en demeure.
N'oubliez pas de
faire
un enfant.
D'aller faire des enfants. Puis une assignation au tribunal si on n'a pas fait d'enfant. Enfin, je veux dire, comment on peut tout traiter comme ça par l'administratif ?
Bah, ça s'appelle la France.
On ne pense pas à mettre en place une économie qui va favoriser le fait de faire des enfants, etc. Donc moi, je veux bien qu'on informe les gens qui peuvent, congeler leur gamète ou ce que tu veux. D'accord. Déjà, je trouve que 29 ans, c'est tard. je trouve que, parce que nous, chez les femmes, à partir de 30 ans, ça commence sérieusement.
L'âge moyen, à 31 ans.
Ouais. Donc, moi, je trouve que si vraiment tu devais faire ça, tu devrais le faire un peu plus tôt, à l'âge adulte. Un peu plus tôt. Mais en moi, pour moi, c'est encore une administration de quelque chose qui devrait être un projet de société. Mmh. Voilà.
Mmh. Jérôme.
Non, honnêtement, moi, je vois pas comment on peut être contre, quoi. C'est de l'information sur la santé sexuelle, c'est de l'information sur la contraception, c'est de l'information sur les moyens qui existent pour arriver à avoir un enfant. C'est l'information sur le fait qu'à partir de 29 ans, tu peux effectivement, congeler tes gamètes, que ce soit spermatozoïdes ou ovocytes, pour ensuite plus tard arriver à avoir un enfant si tant est que tu n'y arrives pas de façon, on va dire, naturelle, quoi, en quelque sorte. Donc, je vois pas ce que ça peut avoir d'embêtant. On sait qu'on est dans une misère de l'information sexuelle dans ce pays. Il y a plus du tout d'éducation sexuelle, etc. Donc, l'information est pas mal quand même. Par contre, ce qu'on devrait rappeler, c'est que les centres, et notamment les centres de PMA, sont aujourd'hui en grande souffrance, que les gynécologues obstétriciens, en particulier dans le privé, sont en grande souffrance, le système est en train de s'effondrer, et donc c'est pas tout que de dire aux gens, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, faudra aussi qu'on refinance ces centres qui sont en train de se casser la gueule les uns après les autres.
Bah oui,
et ça, personne n'en parle, dans le plus grand silence.
Là, tu mets le doigt sur quelque chose, ça veut dire que moi, je vois bien le truc. C'est un truc pour dire, on fait quelque chose.
Oui, on va faire une lettre.
On va faire quelque chose. Oui. Ah, tiens, si on faisait
une
lettre.
C'est pas un numéro vert, etc. C'est mieux, quand même.
Oui, c'est pas un numéro vert, c'est vrai.
On a échappé au numéro vert.
Mettre des vrais moyens.
Voilà, c'est surtout ça.
Ça, non. Créer une vraie politique familiale, etc. Ouais. Ça, non. Une économie où on gagne suffisamment avec notre travail, où on peut se loger. Ah, bah, ça, non. Par contre, une lettre, l'administration. Le formulaire, allez hop.
En plus, pendant très longtemps, la France se distinguait en Europe sa forte natalité.
Oui.
Et l'ultra-libéral que je suis reconnaît que c'était sans doute notamment à l'universalité des allocations familiales. C'est-à-dire que les gens recevaient des allocations. D'ailleurs, à une époque, ils recevaient même en espèces. Avant la généralisation du virement, etc., des allocations substantielles et universelles. Même quand vous gagnez bien votre vie, vous perceviez des allocations. Et donc, ça mettait quand même dans l'esprit des gens, et notamment des jeunes, le fait que faire un enfant ou plusieurs, c'était soutenable financièrement. Aujourd'hui, que les salaires ont baissé, parce que, comme Joël l'a décrit, on travaille moins qu'avant, etc., que plein de nouveaux coûts se sont créés. En réalité, il y a plein de nouveaux trucs qu'on paye, les téléphones, les Netflix, le chat GPT, le truc. Si tu additionnes tout, en fait, à la fin, t'as facilement, tu peux dépasser facilement 100 euros par mois d'abonnements divers et variés, débiles d'ailleurs pour la plupart. Il y a un sentiment que faire des enfants, c'est quelque chose d'inaccessible. Et donc moi, je pense que autant je suis pour tronçonner partout ailleurs dans la dépense publique, autant la fécondité dans un pays, la natalité, c'est quand même vital. Et donc je serais pour remettre l'universalité d'allocation familiale soit substantielle.
Ça avait été supprimé par François Hollande.
Pour redonner aux gens envie de faire des enfants. Bah oui, parce que la gauche déteste la famille.
Suite des GG dans un instant, il est 10h05. Vous revenez avec nous prendre la parole au 32-16 avec le docteur Marty, avec Charles Consigny, l'avocat, et Joël Dagosséry, la coach de vie. On va revenir sur l'interview du président de la République, Emmanuel Macron, face à la violence des jeunes. Ce qu'il dit, le chef de l'État, c'est qu'il souhaite une étude scientifique sur les jeux vidéo, voir s'il y a un impact sur les jeunes, et dans ces cas-là, il faut interdire. D'accord ou pas ? 32-16.
RMC, 9h, midi, les Grandes Gueules.